Écho d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bienvenue à ce rendez-vous économique de tous les soirs. Daniel Tambinzoni nous emmène les informations.
Inauguration du pont Kirikiri au nord Kivu. Ce pont constitue le point de jonction de trois entités essentiellement agricoles. Plus de détails dans deux minutes avec Étienne Moindo. Les difficultés d'accès à l'eau potable pèsent énormément sur les budgets domestiques, nous dira Kaziragi Kazadi dans la deuxième partie de cette émission.
Journée de l'industrie aujourd'hui à la foire internationale de Kinshasa. Simon Bosso, ministre de l'Industrie, qui y a pris part, est l'invité de l'Écho d'économie à suivre dans 10 minutes. D'abord les infos en national. Signature aujourd'hui d'un protocole d'accord entre le Fonds pour la promotion de l'industrie et une société indienne.
Cette société, dont le nom n'a pas été révélé, vient installer en RDC une industrie de fabrication de tracteurs. À l'occasion, la DGA du FPI a dressé le bilan de 20 ans d'activité de cette institution. Un bilan qui se résume autour de près de 175 millions de dollars américains utilisés pour le financement de 600 projets à travers le pays dans le domaine de l'agroalimentaire et industriel.
Et la province du Nord Kivu enregistre une amélioration de ses recettes propres.
Le gouverneur de province du Nord Kivu se félicite des efforts menés par le gouvernement provincial pour cette amélioration sensible du niveau de la réalisation des recettes propres du gouvernement provincial. Malgré quelques imperfections, a reconnu Julien Paloukou, les recettes propres du gouvernement provincial ont été multipliées par 10 en 3 ans, rien que pour le premier semestre de l'année 2009, les recettes produites sont de plus d'un milliard de francs congolais, soit 34% du taux d'exécution par rapport à l'année précédente où le gouvernement provincial n'avait produit que 21% toute l'année.
Et les discussions sur un projet d'agrandissement du port de Matadi sont en cours.
C'est l'objet principal de la mission qu'effectue depuis hier une délégation des responsables du port autonome d'Anvers à Matadi. C'est qu'a déclaré Marc Van Dil, chef de la délégation qui a été reçu hier par le gouverneur de la province du Bas-Congo. Le port autonome d'Anvers et celui de Matadi sont jumelés depuis 5 ans.
Révision à la baisse du prix de courant électrique à Mbujimayi au Kasaï oriental.
Le tarif du courant électrique par carte prépayée est réduit de 23 à 15 centimes le kilowattheure. Cela après des longues négociations entre une délégation du ministère de l'énergie venue de Kinshasa et deux entreprises de distribution de l'énergie électrique dans la province. Le gouverneur de province qui a salué cette volonté manifeste des distributeurs de l'électricité suggère que ce tarif soit encore revisé à la baisse pour permettre l'accessibilité à toutes les couches de la population à l'électricité. Il faut dire que la MIBA, qui a résilié son contrat avec la SNEL, vendait à l'Hydroforce son énergie à 700 a actuellement accepté de le rabaisser à 5.
Et début aujourd'hui en province orientale des travaux de réhabilitation de la route Kisangani-Ubundu.
Longue de 125 km, l'entreprise Bego Kungu, qui est chargée de réhabiliter cet axe routier, précise que la durée des travaux sera de 12 mois. Le coût de travaux est estimé à plus d'un million de dollars américains, un appui de l'USAID par l'entremise de l'UNOPS.
Et nous terminons ces infos en national avec l'ouverture ce mercredi au club de la MIBA du Forum socio-économique sur le développement durable de la province du Kasaï oriental, Leçons et perspectives.
150 participants auront 5 jours pour faire un état de lieu et réfléchir sur les pistes de solutions devant redresser les différents secteurs économiques, sociaux et culturels.
La nouvelle économique au bout du fil.
Le coup de fil de ce soir se dirige vers Butembo, Nord Kivu, où nous retrouvons Étienne Moindo. Un pont a été inauguré à Butembo. Étienne Moindo, vous avez assisté à cette cérémonie. Pouvez-vous nous décrire cet ouvrage?
Oui, Jocelyne, bien le pont Kirikiri est jeté sur la rivière Talihia. Il mesure 16 mètres de long, 4 mètres de large, a une capacité de 25 tonnes. Sa durée de vie est estimée à 50 ans. Cet ouvrage, dont la construction a duré environ 3 ans à cause surtout des aléas climatiques, a coûté près de 75 000 dollars américains à la DSF-COFEDEC.
DSF-COFEDEC, on dirait un parti politique, Étienne.
Oui, eh bien, c'est parti dirigé par le sénateur Venak Tsipassa, qui était d'ailleurs à l'inauguration hier mardi avec le ministre national de la Culture et des Arts, Esdras Kambale-Barekwa.
Il peut donc y avoir un intérêt politique, mais je crois que ces ponts Kirikiri a une importance économique, Étienne Mouindo.
Oui, le pont Kirikiri constitue le point de jonction des collectivités Bamaté, Bassoa et Batangi, trois entités essentiellement agricoles situées dans les territoires des Lubero. La construction de ce pont via point nommé reconnaissent les autorités administratives du territoire des Lubero. Elles affirment que la population des Kiribata, Bukununu et Kalimba sur la côte ouest du lac Édouard va écouler ou vendre facilement à Boutembo ses produits de pêche et de l'agriculture, notamment les manioc, la banane, l'arachide, le riz et le café. Elle déclare que des quantités importantes de café traversaient notamment le lac Édouard pour l'Ouganda voisin.
Merci beaucoup Étienne Mouindo pour cette information. Vous intervenez en direct de Boutembo. Et tout de suite, nous allons retrouver Daniel Tambinzoni pour les informations internationales.
Info économique en Afrique et à travers le monde.
Daniel Heineken a publié aujourd'hui ses chiffres pour le premier trimestre.
Les bénéfices du groupe de brasserie baissent de 10% et s'élèvent à 480 millions d'euros. Le chiffre, lui, de plus de 7 milliards d'euros, est en baisse de 12% par rapport au premier semestre de l'année dernière. Depuis janvier, Heineken a produit 78 millions d'hectolitres de bière, dont certaines en RDC, car le groupe hollandais détient 97% de la Bralima.
Et l'Autriche est parvenue à un accord politique pour l'assouplissement du secret bancaire.
L'Autriche est le dernier pays de l'Union européenne à figurer sur la liste grise des paradis fiscaux de l'OCDE. La Banque européenne d'investissement, bras financier de l'Union européenne, avait déjà prévenu l'Autriche que ses banques risqueraient d'être pénalisées si le pays maintenait sa politique actuelle de secret bancaire au-delà de 31 mars 2010. En étant écarté de projets cofinancés par l'institution.
Et toujours dans ce registre, un accord franco-suisse de levée du secret bancaire.
C'est prévu qu'il soit signé demain, Jocelyne. Il permettra au fisc français d'obtenir des banques suisses des informations sur leurs clients français soupçonnés d'évasion fiscale, a annoncé mercredi le ministre de l'économie, Christine Lagarde, relayée par l'agence France Presse.
Merci beaucoup Daniel Tambizoni pour ces informations économiques du monde. Écho d'économie se poursuit et voici sa deuxième partie.
Éco-reportage.
L'éco-reportage de ce soir à Kinshasa, où les difficultés d'accès à l'eau potable et à la fourniture électrique pèsent énormément sur le budget domestique. Pour ne prendre que le cas de l'eau, certaines familles sacrifient plus de 70 000 francs congolais à l'eau seulement. Kaziragi Kazadi nous emmène à Selembao, une commune de Kinshasa.
Le soleil n'est pas encore levé ici dans la commune de Selembao. Les crapauds coas et leurs cris confondent avec le bruit de ceux qui veulent déjà faire une réserve d'eau pour la journée. C'est trop tôt, il faut aller. Se lever de bonne heure ne suffit pas. Aussi, il faut-il avoir l'argent qui corresponde à la quantité d'eau voulue.
20 litres, 100 francs. Cantine, 50 francs. 10 000, 6 000. Si on a classe, 10 000, 9 000.
S'il y en a qui gagnent en vendant de l'eau, d'autres par contre sont perdus dans le flux des prix engagés. Irène, veuve et mère de deux enfants, dépense chaque jour plus de 2000 francs pour s'approvisionner en eau. Elle est au bout du rouleau.
Il faut na futa lisusu Il faut foutre 1000 francs. Et ça, il y a 3000 francs. Ça, on a reçu ma cala. Au moins 2000. Pour ban en être les langues. Il faut que la maille à moto. Nazo koka sousouté. Mon bon, on repenir sur le koué. N'aibu kouté sur la souka souko ndérénit.
Les conséquences sont fâcheuses sur le budget de famille. L'impact des difficultés d'accès à l'eau potable et à la fourniture de l'énergie électrique est réel sur les revenus des ménages, soutient le professeur Bakandeja.
L'impact est réel parce que vous savez que la consommation domestique de l'eau et de l'électricité, en termes de pouvoir d'achat, ça peut entamer une partie des revenus des ménages. Alors lorsqu'on prend le niveau moyen des salaires et qu'on analyse tous les frais qui sont engagés pour pouvoir avoir l'eau et l'électricité au cours d'une journée, ça représente quelque chose.
Si le manque d'eau appauvrit les familles, l'électricité, elle, avec ses interminables allers-retours, en ferait bien davantage.
L'entretien de ce soir.
Journée de l'industrie, aujourd'hui à la foire internationale de Kinshasa, Simon Bosso, ministre de l'industrie, a pris part. Il est notre invité. Monsieur le ministre, bonsoir. Quel est l'état des lieux des industries de la RDC aujourd'hui?
Bon, l'état de l'industrie congolaise est difficile aujourd'hui, il faut le reconnaître. Nous sommes un pays qui est entré pratiquement depuis quelques années dans une phase de désindustrialisation. Mais aujourd'hui, avec les efforts qui sont conduits par le gouvernement, nous avons quand même un début de relance à petits pas de l'industrie locale.
Mais qu'est-ce qui est fait concrètement pour relancer l'industrie congolaise?
Il y a au niveau de la politique et des stratégies gouvernementales, la chose la plus importante qui est faite, ce sont les réformes qui visent à améliorer le climat des affaires, parce qu'il faut améliorer le climat des affaires pour permettre aux industries qui existent déjà de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Nous avons aussi les mesures qui sont prises par le gouvernement, notamment notre adhésion à l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. C'est une des exigences qui est posée par beaucoup des investisseurs privés qui se font toujours plaints de l'insécurité juridique et judiciaire dans notre pays. Avec notre adhésion à l'OADA qui a été décidée lors du dernier conseil des ministres, ça permet de sécuriser les affaires, d'avoir un droit unique avec d'autres pays de l'Afrique et permettant ainsi aux opérateurs industriels qui viennent investir ici d'avoir des références à lancer des industries.
Oui, monsieur le ministre, c'était la journée de l'industrie à la FIKIN aujourd'hui et également vous avez célébré les 20 ans du fonds de promotion de l'industrie, le FPI, qui devrait être transformé en banque d'investissement. Qu'en est-il au juste?
Tout à fait. Aujourd'hui, le FPI a été maintenu par le gouvernement comme établissement public à titre transitoire. Et j'ai pu négocier, obtenu de l'Agence française de développement un financement qui va permettre d'accompagner la transformation du FPI en une institution financière non bancaire destinée au développement de l'industrie. Parce que vous avez vu que les ressources actuelles du FPI, qui représentent à peu près 20 millions de dollars par an, ne sont pas suffisants pour soutenir le développement d'une véritable industrie dans le pays. Alors, pour que la FPI puisse mobiliser des ressources plus importantes, c'est-à-dire accéder à des lignes de crédit, des banques de développement étrangères, depuis la disparition de la SOFIDE, nous avons des problèmes. Nous n'avons pas de ressources adaptées pour financer le développement de l'industrie qui a des besoins de ressources à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, les banques commerciales ne donnent que du financement à court terme.
Oui.
Donc, nous devons transformer la FPI en une institution financière de développement industriel qui peut mobiliser des ressources sur les marchés des capitaux. Et pour cela, nous avons besoin d'une période de transition. C'est pour ça qu'il est maintenant établissement public, parce que les sociétés commerciales deviennent totalement autonomes. À ce moment-là, nous avons un audit institutionnel qui va démarrer, qui va s'accompagner d'une planification stratégique pour définir une feuille de route qui doit élaborer toutes les étapes qui vont nous permettre de conduire l'FPI de l'établissement public à une institution financière non bancaire qui va pouvoir mobiliser des ressources importantes afin de répondre aux défis du développement de l'industrie.
Merci Monsieur le Ministre. Merci d'avoir répondu aux questions de Écho d'économie qui s'achève d'ailleurs. Willem Lungamba était à la mise en onde, à la présentation. Jocelyne Moussaou Pondé, Daniel Tambinzoni, Georges Kamoujova, Agathe Mpona, Kaziragi Kazadi ont élaboré cette émission sous la supervision de Ben Kabamba. Bonsoir.